147.
Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu, divin supplice, ce sacrifice,
Seigneur Jésus, nous venons ce soir encore autour de toi. Et si nous pouvons chanter ces cantiques, source féconde, salut du monde, ô profonde joie, il n'y a personne que tu veuilles écarter du salut. Et peut-être ici, dans cette salle, Seigneur, tous ont déjà répondu. C'est toi qui le sais. Peut-être il y en a un qui n'aurait pas encore répondu. Alors tu l'attends. Tu attends qu'il réponde. Et Seigneur Jésus, nous venons près de toi. Encore ce soir pour écouter la voix qui rassure, la voix qui nous donne confiance, la voix qui réjouit nos cœurs, la voix qui nous transporte, cette voix qui vient fortifier celui qui est lassé, cette voix qui vient encourager. Oui, Seigneur, nous venons, nous désirons entendre cette voix et nous voulons nous remettre à toi pour cette heure, te remettre en particulier Frédéric dans le message que tu lui as mis à cœur de nous donner, que tu puisses être avec lui comme nous te demandons d'être avec nous tous, que nous soyons attentifs, que nous écoutions, en effet, cette voix d'amour. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons grâce ensemble, une fois encore, pour cette journée et pour cette fin de journée où tu nous permets de nous arrêter devant toi et pour écouter ta parole. Nous te bénissons et par toi, nous bénissons notre Dieu et Père. Amen.
Amen. Amen.
Et si j'ai choisi ces deux versets de cantique, un sur la résurrection et un sur « Il n'est Jésus pardonne, il n'est personne qu'il veuille écarter du salut », eh bien c'est que ce sont deux des grands piliers du livre de Jonas. S'il y a un livre dans l'Ancien Testament qui parle de la résurrection, c'est le livre de Jonas et du salut ouvert à tous. Alors je propose donc qu'on fasse cette lecture ensemble et plutôt que de faire toute la lecture du texte et après d'essayer d'apporter quelques commentaires, on va faire une petite lecture commentée ensemble donc, pour progresser donc, à travers ce livre. Livre du prophète Jonas. La parole de l'Éternel vint à Jonas, fils d'Amittaï, disant « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée devant moi. » Alors Jonas, fils d'Amittaï, il est cité dans le livre des Rois, il y a un verset qui nous dit, en 2 Rois 14, que Jéroboam II rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il avait dite par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï, comme ça nous est dit là, qui était de Gath-Hépher, probablement en Galilée. Ce texte de deux rois, mais surtout, bien sûr, les trois citations que Jésus fait de Jonas dans les évangiles, et on y reviendra, ça donne du poids à l'aspect historique du texte. La façon aussi dont c'est rédigé commence tout à fait comme un texte, on va dire, ça ressemble énormément à si on racontait l'histoire d'Élie, d'Élisée, un récit qui va raconter des choses, et il y aura aussi des miracles, tout à fait comme quand on lit Élie ou Élisée. Donc, en tout cas, quand on lit le texte, avec en plus Jésus lui-même qui, en trois citations, on va dire, met son tampon sur Jonas, plus le fait que le rédacteur des chroniques mentionne Jonas, le fils d'Amittaï, on n'a aucun élément biblique qui laisserait penser que Jonas est peut-être une allégorie ou un poème allégorique. A priori, tous les éléments que l'on a en lisant ne mettent pas en cause son aspect historique. Et quand Jésus le cite, il le cite au même plan, par exemple, que la reine de Sheba. Jonas est un signe, et puis la reine de Sheba est venue aussi de très loin pour voir la sagesse de Salomon. Les deux sont cités dans le même paragraphe. Pas grand monde d'entre nous mettrait en doute l'historicité de la reine de Sheba. Et même paragraphe, même phrase du Seigneur Jésus, a priori, on n'a pas de raison de douter de l'historicité de Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Alors, Ninive, la grande ville, en fait, le côté qu'elle est grand, cette ville, ça transperce tout le livre. À plusieurs endroits et à chaque chapitre, il est dit que la ville est grande, avec le commentaire du chapitre 3 où il faudra 3 jours de chemin pour la traverser, et puis tout à fait la fin du chapitre 4, le nombre de personnes qui habitent, les 120 000 dont on parlera à la fin, on a beaucoup de choses sur le fait que cette ville était grande. Et on pense à nos grandes villes aujourd'hui, sur cette terre. Et on voit l'intérêt de Dieu pour les grandes villes. Et on est touché dans la façon du Seigneur Jésus, la façon avec laquelle le Seigneur Jésus lui-même parle de la grande ville de Jérusalem. Lui qui disait « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule, s'accouver sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » Et en Luc 19, quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant « Si tu eusses connu toi aussi en cette tienne journée les choses qui appartiennent à ta paix. » Notre Dieu est sensible aux grandes villes de ce monde. Et là, on a un exemple dans ce texte. On pense que Ninive, c'est Mossoul actuel. Hein. À Leverkusen, on a des réfugiés qui viennent de Mossoul et qui viennent tous les mois à la conférence en arabe. Alors c'est touchant de rencontrer des gens qui viennent de là. Crie contre elle. C'est une mission délicate, parce qu'évidemment, c'est le royaume, c'est la capitale du royaume des Assyriens, et qui avait déjà fait pas mal d'attaques et de violences contre le peuple. La prédiction avec Jéroboam, c'était plutôt un moment où il y avait un retour un petit peu du peuple qui reprenait quelques territoires. Mais enfin, l'Assyrie, c'est quand même le grand ennemi. Et bien sûr, d'aller prêcher au milieu de cette grande capitale du grand ennemi, c'était quand même une demande difficile. Et bien sûr, on se demande, est-ce que c'est ça qui fait qu'il n'est pas allé ? On va voir. C'était donc une mission délicate, éventuellement dangereuse. Et la raison, c'est parce que leur méchanceté est montée devant moi. On se souvient que pour Sodome, Gomorre, Dieu avait entendu le cri qui était venu jusqu'à lui, Genèse 18. Dieu entend des choses. Il entend un cri qui monte à lui et là, il leur dit, eh bien, on va crier, on va crier contre elle. Il va crier un appel pour ces gens-là. Et on sait que dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui réfléchissent sur « mais pourquoi Dieu n'intervient pas ? Pourquoi Dieu laisse faire ?» Hein, il y a bien sûr le psaume d'Asaph, la prospérité des méchants. Il y a Habacuc qui se pose la question « mais pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement ? Gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui ?» Là aussi, c'était des méchants ces Assyriens. Pourquoi les méchants, Job, pourquoi les méchants vivent-ils? Deviennent-ils âgés? Croissent-ils même en force? Ce côté, mais est-ce que Dieu va intervenir? Et le côté de la patience de Dieu, elle est aussi dans le livre de Jonas, et elle est pour les Ninivites, et elle est pour Jonas lui-même. Mais voilà, il y a un moment aussi où Dieu intervient. Et il intervient aussi dans ce monde, et c'est aussi par ses interventions que les gouvernements, les royaumes, les choses changent, et il y a des changements souvent inattendus dans notre monde. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Et il descendit à Joppé et trouva un navire allant à Tarsis. Ayant donné le prix de sa place, il y descendit pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Et l'Éternel envoya un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, de sorte que le navire semblait vouloir se briser. Et les marins eurent peur et crièrent chacun à son Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'en alléger. Et Jonas était descendu au fond du vaisseau et s'était couché et dormait profondément. Et le maître des rameurs s'approcha de lui et lui dit « Que fais-tu, dormeur ? Lève-toi, crie à ton Dieu. Peut-être Dieu pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Alors il veut s'enfuir. Loin de la face de l'Éternel, est-ce possible de s'enfuir loin de Dieu ? Psaume 139, où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta droite me saisira. Et il prend donc un bateau en direction de Tarsis, qui est peut-être au sud de l'Espagne, et il y a pas mal de textes dans l'Ancien Testament qui montrent que c'est un peu une ligne régulière de business, de commerce. Hein. Les navires du roi allaient à Tarsis avec les serviteurs de Hiram. Une fois tous les 3 ans, les navires de Tarsis venaient apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, des paons. On va dire qu'il prend une ligne régulière, il paye son billet, tout a l'air d'aller pas mal, mais il est parti pour s'enfuir de devant la face de l'Éternel. Alors, il n'aime pas du tout les Assyriens, évidemment. Les Assyriens, c'est quand même des ennemis, des gens violents, qui en veulent à son peuple, qui ont déjà fait du mal. Il connaît bien aussi son Dieu de pardon. Et la clé, on l'aura au chapitre 4. Et puis, c'est effectivement aussi la première fois, quand même, qu'un prophète de l'Éternel est envoyé prêcher à l'étranger. On a Ézéchiel, Daniel, qui étaient déportés. Alors, ils ont prêché pour leur peuple et éventuellement un petit peu autour d'eux. On a les prophètes restés en Juda ou en Israël qui ont prêché pour le peuple, mais qui ont aussi parlé des pays étrangers. Mais alors, un prophète qui est envoyé en mission à l'étranger, grande nouveauté. Grande nouveauté. Et on sait que la nouveauté sera très grande aussi pour les disciples quand Jésus, Matthieu 28, va leur donner la grande commission, la grande mission évangélique. Donc, une très grande rupture. Ce sera d'ailleurs difficile aussi pour Pierre d'accepter que l'Évangile est ouvert à toutes les nations et il aura besoin d'une vision avec les quadrupèdes qui descendent pour en être convaincu. La vision se passe à Joppé d'ailleurs. C'est de là aussi que part notre ami Jonas. Alors, on peut se demander quelles sont toutes les choses qui ont fait qu'il n'a pas voulu partir dans la bonne direction. Et la clé, il nous la donnera lui-même au chapitre 4. Et c'est le fait que Dieu voulait pardonner à ces gens qu'il haïssait, lui. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux et qui te repent. Alors, ce côté du pardon pour ces gens-là, ça ne lui plaisait pas, semble-t-il. Et on a donc sûrement ici un juif orgueilleux, ou un juif sûr de lui, un juif qui ne veut pas partager ce grand message dont son peuple est le dépositaire. Il part Et on assiste à une grande descente, puisqu'on a ces trois fois le verbe descendre. Hein, il descendit pour aller avec eux, verset 3, il descendit à Joppé, ensuite il descendit pour aller avec eux, verset 3, et puis il est descendu au fond du vaisseau, verset 5, au milieu. Toutes ces circonstances lui semblent pour le moment favorables. Tout a l'air d'aller bien, il a trouvé un navire, il est en chemin, il a pu payer. On va dire, le fait que les circonstances soient favorables, ce n'est pas toujours la preuve qu'on est dans le chemin du Seigneur. Et la réciproque est vraie, ce n'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'on se trompe. Donc, circonstances favorables n'égalent pas forcément la main du Seigneur, mais circonstances difficiles ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas sur son chemin. Hein, parce que là, tout a l'air d'aller bien au début. Mais voilà, la tempête arrive, l'Éternel envoya un grand vent. Dieu est actif dans ce livre et le verbe envoyer, préparer intervient plusieurs fois dans le livre. Hein. Il prépara un grand poisson, il commanda au poisson, il prépare le quicajon, il prépare le ver, il prépare le doux vent. C'est une grande grâce de Dieu que d'être acteur, que d'être agissant quand un de ses serviteurs est en train de s'éloigner. C'est une grande grâce de Dieu envers nous quand on s'éloigne, que Dieu prépare, agisse, fasse, intervienne. Et c'est ce à quoi on assiste là. De nouveau, les soins, la patience de Dieu envers un serviteur qui s'éloigne. La crise est intense, hein, les marins eurent peur, ils crient chacun à son Dieu, ils jettent les objets par-dessus bord. Un bon exemple aussi de savoir gérer les vraies priorités. Il y a un moment où les choses matérielles n'ont pas de valeur. Il y a un moment où les choses matérielles n'ont pas de valeur. Ils jettent tout par-dessus bord. Voilà des gens qui ont la sagesse de gérer les priorités. Ils ont tout jeté par-dessus bord pour alléger le navire, pour sauver leur vie. Mais la crise est intense et Jonas dort. Il dort profondément. Alors il va être réveillé par ce cri du chef des rameurs, « Que fais-tu, dormeur ?» Et c'est vrai, quand on lit ça, quand même, on se dit, « Mais mince, le Seigneur Jésus aussi, il a dormi, il y avait aussi une tempête, et on le réveille. » Et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, avec bien sûr la grosse différence, que le Seigneur lui dort dans la paix du Créateur, il n'avait pas de crainte d'être englouti, et lui, Jonas, il dort dans la paix de l'insouciance. Et la question se pose, où est notre paix? Est-ce qu'elle est dans la paix de Jésus? Ou est-ce qu'elle est dans la paix de l'insouciance ou de l'inconscience? Hein, on a ici deux dormeurs dans une tempête qui se font réveiller. Voilà. Mais c'est deux chemins possibles et c'est deux sources de paix qui ne sont pas bien sûr les mêmes. Alors, le verset 6, le maître des rameurs s'approcha de lui et lui dit, « Que fais-tu, dormeur? Lève-toi, crie !» Alors, vous imaginez la scène, il est en train de dormir. Et qu'est-ce qu'il entend les trois premiers mots? Lève-toi, crie! Vous n'avez pas déjà entendu ces mots au début du chapitre? Verset 2, Dieu lui dit, lève-toi! Va à Ninive, crie! Lève-toi, crie! Il réentend le même message. Et dans la bouche de qui? Du chef des rameurs. C'est qui le prophète? C'est le chef des rameurs. Chef des rameurs, il est devenu le prophète qui vient parler à la conscience du prophète. Ça aussi, c'est beau. Et ça nous arrive aussi, des fois, d'être repris par des gens, des incrédules, qui nous reprennent, qui sont prophètes pour nous. Et sachons nous laisser enseigner hein, dans les entreprises, on appelle ça la culture du feedback, du retour d'expérience, savoir se laisser enseigner par les autres, avoir l'humilité d'accepter. Que fais-tu, dormeur? Lève-toi, crie! Crie à ton Dieu! Les incrédules, ils trouvent tout naturel que les chrétiens prient. Et bien voilà, suivons leurs recommandations, soyons des gens de prière, parce qu'un incrédule, ça s'attend à ce que les chrétiens prient. Eux, ils savent qu'ils ne savent pas prier. Alors, ils sont bien contents quand on est allé prier. On a un voisin qui nous dit des fois le dimanche, « Est-ce que vous avez pensé à prier pour moi ?» Mais c'est beau. Voilà. Alors, ensuite, peut-être Dieu pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. On commence à sentir ici que ce chef des rameurs, il a une certaine qualité de personne.
Et on continue la lecture. Verset 7. Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, jetons le sort, afin que nous sachions à cause de qui ce malheur nous arrive. » Et ils jetèrent le sort, et le sort tomba sur Jonas. Et ils lui dirent, « Mais déclare-nous à cause de qui ce mal nous est arrivé. Quelle est ton occupation? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu ?» Et il leur dit, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Et les hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent, « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel, car il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent, « Mais que te ferons-nous afin que la mer s'apaise pour nous ?» Car la mer allait grossissant toujours. Alors Dieu continue à intervenir. Là, c'est avec le sort, donc il jette le sort. Le sort tombe sur Jonas. Il nous arrive, nous aussi, parfois, de vivre des hasards qui nous parlent. Hein. Donc, voilà, ici, un hasard qui Dieu a permis que ça tombe sur Jonas. Dieu continue à diriger les événements. Et puis, les questions essentielles de la vie, on va dire, là, on commence presque à une prédication de l'Évangile, parce qu'on a les grandes questions de la vie. Quelle est ton occupation? D'où viens-tu? Quel pays? De quel peuple? Il se pose toutes ces questions autour de lui. Et Jonas commence à dévoiler un peu ses cartes. Et quelque part, on commence aussi à voir aussi sa noblesse à lui, parce qu'il ne va pas trop cacher de choses. Il dit assez vite, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel. » Donc déjà, il lâche le nom, « Le Dieu des cieux. » Et il rajoute qu'il a fait la mer. Qu'il a fait la mer. Et ils étaient en pleine tempête. Et il n'a pas peur de dire, bah « Oui, mon Dieu à moi, c'est celui qui a fait la mer. » C'est celui qui a fait la mer. Donc, il commence quand même à lâcher prise, il commence à dire. Et en fait, il va même plus loin, puisqu'il va tout dire. Il va leur dire même qu'il s'enfuit de devant l'Éternel. Et alors, le plus drôle, c'est que c'est les hommes qui ont une grande frayeur. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais comment peut-on fuir loin d'un Dieu pareil? Si ton Dieu est si grand, mais qu'est-ce que tu as fait pour t'enfuir loin de lui? Donc, ils sont déjà touchés dans leur cœur par le témoignage indirect de Jonas. Lui, il est en phase de restauration et eux, ils sont en phase de conversion. Et Dieu, ben, il utilise les deux chemins. Que te ferons-nous? Alors, Jonas répond. Il leur dit, prenez-moi et jetez-moi à la mer et la mer s'apaisera pour vous. Car je sais que c'est à cause de moi que cette grosse tempête est venue sur vous. Mais les hommes ramèrent pour regagner la terre. Et ils ne purent pas, car la mer allait toujours grossissant contre eux. Et ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ah, Éternel, que nous ne périssions pas, nous t'en prions. À cause de la vie de cet homme, ne mets pas sur nous du sang innocent. Car toi, Éternel, tu as fait comme il t'a plu. » Et ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Et les hommes craignirent beaucoup l'Éternel, et offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Jonas commence à progresser. Il a tout confessé, il a tout dit. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien, il redevient le prophète. Et il dit, ben oui, il faut me jeter à l'eau. Il faut que vous me jetiez à l'eau. Donc, il a cet esprit maintenant de sacrifice. Il est prêt à s'offrir lui-même pour le salut des autres. Donc, là, il a quand même progressé. Tout à l'heure, il ne voulait même pas y aller de peur qu'il se convertisse, semble-t-il. Et là, il est prêt à s'offrir lui-même pour leur salut. Donc, sa générosité commence à être visible, prêt à mourir pour eux. Pourtant, pas de suicide. Il ne se jette pas à l'eau. Il s'abandonne dans les mains de ses matelots, mais aussi dans les mains de Dieu. Et ça nous fait penser à David, dans la scène du recensement, quand Dieu lui fait choisir, et qu'il dit, eh ben, je préfère être entre les mains de Dieu, parce que ses miséricordes sont grandes. Donc quand il dit que la solution, c'est qu'il soit jeté dans la mer, il s'abandonne entre les mains de Dieu. Mais bien sûr, il pense qu'il va mourir. Et quant à eux, eh bien, ils se mettent à prier. Ils se mettent à prier, donc c'est vraiment un processus de conversion, puisqu'ils se mettent à prier. Et alors, ils vivent, on va dire, là, de nouveau, l'Évangile de façon très forte, puisqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont le choix entre des efforts pour continuer à se battre contre cette tempête. Les hommes ramèrent pour regagner la terre, et ils ne purent pas, car la mer allait toujours grossissant contre eux. Donc, c'est vraiment l'effort de celui qui aimerait s'en sortir dans la vie, qui aimerait s'en sortir pour régler le problème du péché, du pardon. Mais non, cette mer, elle est maintenant contre eux. Tout à l'heure, elle était contre Jonas, maintenant elle est contre eux. Donc, ça ne progressera pas. Et le seul chemin, c'est quand même que du sang innocent, dans leur esprit, ils se disent, mais c'est peut-être même une victime innocente. Le seul chemin, c'est qu'une victime innocente soit sacrifié pour leur salut. Et donc, c'est ce chemin qu'ils sont en train de faire. Et on voit qu'ils ne veulent pas le faire naturellement, parce que ce n'est pas un chemin naturel. Et on connaît toutes les résistances pour accepter le seul simple chemin de la foi en le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, victime innocente, qui meurt sous le jugement, hein, la mer ici, c'est vraiment le jugement, c'est la mort. Il meurt dans le jugement pour le salut du monde. Et alors finalement, ils s'y soumettent, mais on voit leur humilité, on voit toute cette attitude très humble qui les honore maintenant. Ils s'y soumettent, ils prient. Ah, Éternel, que nous ne périssions pas, nous t'en prions. À cause de la vie de cet homme, ne mets pas sur nous le sang innocent. Éternel, tu as fait comme il t'a plu. C'est ton œuvre, c'est ta décision. Et dans la foi, dans le chemin de foi, il y a vraiment aussi le fait d'accepter. C'est le plan de Dieu, il est comme ça, on accepte. Tu as fait ça, eh bien alors tu as fait comme il t'a plu. Le « c'est accompli » de Jésus sur la croix, c'est décidé, c'est comme ça. Et on s'y soumet, on l'accepte par la foi. Et c'est tout simple. Et c'est ce qu'ils font là. Ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Et les hommes craignirent beaucoup l'Éternel et offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc c'est vraiment le souffle de la grâce est passé dans ce bateau. Le souffle de la grâce est passé dans ce bateau. Et on voit les fruits maintenant qui se manifestent avec craignir l'Éternel, offrir un sacrifice, des adorateurs, donc la crainte de l'Éternel, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu. Offrir un sacrifice à l'Éternel, c'est être adorateur. Et faire des vœux, c'est déjà être dans l'engagement personnel, dans ce qui nous engage. On est là dans une vraie démarche, très très belle de ces matelots. Et la mer s'apaise. Jonas n'avait pas envie de parler à des étrangers. Et c'est difficile pour Pierre aussi à Joppé. Et l'apôtre Paul sera critiqué tant de fois parce qu'il parlait aux non-juifs. Mais Dieu, lui, il a parlé quand même à ces non-juifs. Et il a organisé tout ça et à la fin, son message est entendu. Et on voit les fruits de ce travail et ce retournement de situation et ce navire converti, la mer s'apaise et Jonas a disparu. Et qui est-ce qui a bien pu raconter à Jonas tout ce qui s'est passé dans ce bateau? C'est pas écrit dans la Bible, hein? Mais ils avaient vidé toute la cargaison, donc il n'y avait pas tellement de raison de rester longtemps en mer. Ils sont peut-être retournés à Joppé assez vite et peut-être que l'un des matelots a retrouvé Jonas plus tard et lui a raconté. Parce qu'évidemment, Jonas n'était pas dans le bateau pour savoir ce qui s'était passé. Et tout ce qui s'est passé dans ce bateau après, le fait que la mer se soit immédiatement apaisée et ce qui s'est passé dans le bateau, voilà, peut-être que quelqu'un le lui a raconté. Alors, on va faire peut-être maintenant un tout petit point prophétique. Parce que quand même, c'est le livre du prophète Jonas. On a dit tout à l'heure que c'était un prophète. Seulement, on n'a pas encore fini la lecture, mais en fait, il n'y aura pas beaucoup de prophéties dans son livre. Il n'y a même aucune prophétie. À part la seule prophétie annoncée, c'est celle qui ne se réalisera pas. C'est le fait que la ville va être détruite dans 40 jours. Elle sera détruite 100 ou 150 ans plus tard, après la prophétie de Nahum. mais la seule prophétie prononcée dans le livre, c'est celle qui s'accomplit. Alors, le livre du prophète Jonas, il est peut-être prophétique plutôt par son histoire et par tout ce qui se passe que vraiment par le message. Et on peut voir peut-être dans ce Jonas une image du peuple d'Israël, une représentation d'Israël. Israël qui était appelé à témoigner envers les nations. C'était quand même le but initial. Souvenez-vous d'Abraham, appelé après la dispersion de la tour de Babel. Les nations sont toutes écartées partout. Et la nouvelle méthode de Dieu, c'est je prends un homme, je fais un peuple, mais par lui, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et donc le but, c'est, apprenant un homme, Abraham, et faisant ce peuple, le but, c'est de rayonner sur la terre entière. Mais le problème des Juifs, c'est l'orgueil spirituel, c'est on a eu les promesses, c'est le côté d'une séparation excessive qui devient orgueil, qui devient des murs, qui fait qu'ils n'étaient plus du tout disponibles pour les autres. Et on a un Jonas et donc un peuple d'Israël qui ne voulait pas témoigner envers les nations, infidèle donc à son appel, par orgueil, esprit de supériorité. Et voilà un peuple, Israël, jeté dans la mer des peuples, mais en fait protégé quand même, et non assimilé, non digéré par tous les peuples. Et la préservation des Juifs au cours de tous ces siècles et millénaires reste quand même un des grands miracles auxquels nous assistons, beaucoup plus difficile à croire que le fameux miracle du poisson, qui arrête pourtant quelques personnes. On a un grand miracle dans la non-digestion du peuple juif à travers les nations, qui est là devant nos yeux. Et si on pousse un peu plus loin encore l'aspect prophétique, si on veut aller même encore plus loin, donc le but c'est un peuple préservé, ensuite qui retourne à sa terre quand il va être craché, et qui va alors être en bénédiction très très large pour toutes les nations avec cette immense ville de Ninive. On pourrait dans ce cas, et on n'a qu'à tourner ensemble à Romains 11, verset 12. Romains 11, verset 12, on pourrait voir dans ces versets une petite illustration de notre livre, ou plutôt notre livre, illustration des versets de Romains 11, verset 12. Romains 11, verset 12, « Si leur chute, donc si la chute des Juifs et la richesse du monde et leur diminution, c'est la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude ?» Donc si la chute des Juifs, eh bien c'est que l'Évangile a été ouvert aux nations, et si le fait qu'ils aient été tout rabougris sur eux-mêmes, leur diminution, eh bien ça a été la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude ? Si la chute de Jonas, c'est le salut du bateau, mais combien plus quand il va sortir du poisson et qu'il va parler à tout Ninive. Verset 15, de Romains 11, « Car si leur réjection, leur rejet et la réconciliation du monde, quelle sera leur réception, sinon la vie d'entre les morts ?» Donc voilà, peut-être qu'on peut voir prophétiquement l'histoire de Jonas un peu comme une illustration de cette histoire du peuple juif qui aurait dû être un témoin, qui ne l'a pas été, jeté dans la mer des peuples, mais préservé pour continuer un jour plus tard encore à témoigner. Alors, chapitre 2. Ah, Maurice, il te reste de l'eau ? T'en restes ou pas ? Non ? Chapitre 2. Il était invité à prier au chapitre 1. Tu veux m'apporter un tout petit peu d'eau, mais... il y en a là, attention, ne te débranche pas. Merci. Ça, c'est gentil. Merci beaucoup. Excusez-moi, je bois la bouteille. Il était invité au chapitre 1 à prier, et maintenant, on va l'entendre prier. On va lire la prière en entier, le chapitre 2. L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Et Jonas pria à l'Éternel, son Dieu, des entrailles du poisson, et il dit, « J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse, et il m'a répondu. Du sein du Sheol, j'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers, le courant m'a environné. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Toutefois, je regarderai encore vers le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête. Je suis descendu jusqu'au fondement des montagnes. Les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours. Mais ô Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est venue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange, je m'acquitterai de ce que j'ai voué. La délivrance est de l'Éternel. Et l'Éternel commanda au poisson, et il vomit Jonas sur la terre. Alors, cette prière, qui est un psaume, c'est vraiment un psaume, un cantique, un psaume, est écrite et a été prononcée, ensuite il l'a retranscrite, il a été prononcé dans la détresse, dans la noyade, et puis dans l'engloutissement, probablement. Et vous avez l'impression de très bien connaître ce texte. Alors, c'est parce que vous connaissez très bien Jonas, mais c'est aussi parce que presque tous les versets sont pris dans les psaumes. Et en fait, c'est très beau de penser à quelqu'un qui est en train de se noyer, et qu'est-ce qu'il fait? Il cite les psaumes. Il prie, et il cite les psaumes. Et c'est un encouragement pour nous à connaître la Bible, à connaître les psaumes, et la Bible pour, en cas de détresse, l'avoir là sur notre cœur, sur notre bouche. Encouragement aussi à utiliser les psaumes pour nous aider à prier. Pour nous aider à exprimer des choses qu'on n'arrive pas à exprimer, dans les psaumes, il y a beaucoup de choses qui vont nous aider. Et donc, c'est ce qu'il va faire là. Alors, juste avant d'entrer dans la prière, il est dit, « Jonas fut dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. » Et le Seigneur Jésus va citer, bien sûr, ce verset dans Matthieu. Il dit ainsi que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson ou du cétacé, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Juste un petit détail technique, vous savez que les Juifs comptent les jours dès qu'ils sont entamés, et donc 3 jours sont faciles à trouver entre un vendredi en fin d'après-midi, le samedi et le dimanche de Pâques, très tôt le matin, on a vraiment les 3 jours, ça nous est précisé, un texte qui dit « et le 3e jour », qui est donc le dimanche. Donc là, on a vraiment les 3 jours sans difficulté. 3 nuits, c'est un peu plus difficile à trouver, mais on peut aussi voir le côté idiomatique. 3 jours et 3 nuits, ça va ensemble, c'est une unité, mais les 3 jours, eux, ne sont pas difficiles à trouver. Et surtout, n'allez pas inventer que le Seigneur serait mort le jeudi ou le mercredi, surtout pas. Hein. 3 jours et 3 nuits, vendredi saint, samedi, dimanche matin. Alors, dans cette prière, on a d'abord le résumé peut-être de la prière, verset 3 au milieu, « J'ai crié à l'Éternel du fond de ma détresse et il m'a répondu », qui est une citation du psaume 120, verset 1. Et puis, on a, je pense, la noyade, la mort, ou l'équivalent mort, et la résurrection. Alors, la noyade, verset 4, « Tu m'as jeté dans l'abîme ». C'est qui l'avait jeté? C'était les matelots. Voilà. Mais ça, c'est aussi un des signes, quand on est sous la discipline, de voir la main de Dieu. De voir la main de Dieu dans la main d'un homme, ou d'un frère, ou d'un autre. Hein? Tu m'as jeté dans l'abîme. Ça, c'est la noyade. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur des mers, le courant m'a entouré. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi, psaume 42. Verset 6, les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme. L'abîme m'a entouré, les algues ont enveloppé ma tête. Ça, c'est la noyade. Et puis, la mort, ou l'équivalent de la mort. Le ventre du poisson devient en fait un tombeau. Et Jésus, dans sa comparaison, il dit, de même que Jonas était dans le ventre, le Fils de l'homme est dans le tombeau, dans le sein de la terre. Alors, du sein du Sheol, j'ai crié, verset 3, au milieu. Je suis rejeté de devant tes yeux, verset 5. Je suis descendu au fondement des montagnes, verset 7. Les barres de la terre s'étaient fermées sur moi pour toujours, verset 7. Et puis mon âme défaillait en moi, verset 8. Ça, c'est le moment, est-ce que c'est le moment de la perte de connaissance, est-ce que c'est le moment, mais c'est l'équivalent du tombeau. Et puis la résurrection. Il m'a répondu, verset 3 à la fin. Toutefois, je regarderai dans le temple de ta sainteté, verset 5 au milieu. Mais éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. Verset 7 à la fin. Éternel, mon Dieu, tu as fait remonter ma vie de la fosse. On pense à Joseph, qui a été aussi mis dans deux fosses. Il a été mis par ses frères dans une fosse qui était la citerne. Et il est tiré hors de la fosse. Image de la résurrection, mais après la mort que lui a infligé ses frères. Et puis après, il est jeté dans la fosse de la prison de Potiphar. Et il dit lui-même, c'est injustement que j'ai été jeté dans cette fosse. Et il en est tiré hors de la fosse où il a été jeté par les nations au moment où il est comparé devant le Pharaon. Donc des exemples un peu de résurrection dans l'Ancien Testament. Il y en a plusieurs, hein, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc c'est pour ça que je les cite. Il y a Job qui mentionne également au chapitre 33, « Il a délivré mon âme pour qu'elle n'alla pas dans la fosse, et ma vie verra la lumière. » Donc cette fosse, c'est vraiment la mort. Hein. « Tu as fait remonter ma vie de la fosse, et je me suis souvenu de l'Éternel, et enfin, ma prière est venue jusqu'à toi dans le temple de ta sainteté. » Et après donc la noyade, après l'engloutissement, on va dire, et puis cette résurrection, ou cette reprise de vie, eh bien, la reconnaissance et les conséquences. Verset 9, c'est même une réflexion un peu sur les bonnes priorités de la vie. Ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est à eux. Jonas, il est sous la grâce, il était objet de grâce. Et puis, voilà, si on est pris par quelque chose qui attire nos regards, qui attire notre cœur, et c'est mensonger, ça nous promet quelque chose, mais ça ne va pas le donner, eh bien, on abandonne ce chemin de grâce qui était à nous. Et puis le verset 10, « Mais moi, je te sacrifierai avec une voix de louange, et je m'acquitterai de ce que j'ai voué. » Tiens, on vient déjà de le lire, ça. Les matelots ont fait exactement ça. La louange, le sacrifice, et les vœux. La même chose, le même engagement de cœur, de louange, d'adoration et d'engagement personnel après cette délivrance. Et l'Éternel commanda au poisson et il vomit Jonas sur la terre, verset 11. Alors, est-il mort ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. On peut penser qu'il a été préservé de la digestion du poisson, semble-t-il. Resté conscient ou pas, on ne sait pas. Mort et ressuscité, on ne sait pas. Le texte est un texte sur la mort et sur la résurrection. Et Jésus nous le dit clairement. Donc il n'y a pas de problème qu'il ait été mort et ressuscité. Mais on n'a pas besoin non plus de ça. On peut très bien accepter le miracle qu'il ait été préservé, vivant, inconscient, on ne sait pas. Mais que quelque part, au moment d'être englouti, il a compris que Dieu s'occupait de lui. Parce que les versets sur la noyade, ils sont pathétiques. Mais quand il a été englouti, même si c'était la fin de tout, il y avait aussi les pensées sur la résurrection ou sur la sortie ou sur la victoire qui laissaient penser « Ah, Dieu est en train de s'occuper de moi ». Et là, on retrouve bien sûr le prophète, le Jonas, celui qui connaît aussi le cœur de son Dieu. Donc, ce n'est pas difficile. On est de toute façon face à une intervention miraculeuse. Mort ou pas, on n'a pas besoin d'être dogmatique sur ce point. Ce texte est un texte sur la résurrection, sur le plan symbolique ou pratique, ça n'est pas le plus important. Alors, en passant quand même sur le texte, on a aussi dans ces psaumes ou dans ces phrases, quelques phrases qui nous font aussi penser au Seigneur Jésus lui-même dans ses propres souffrances et dans l'œuvre qu'il a accomplie. On peut peut-être en mentionner deux. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. c'est toute cette colère de Dieu qui est passée sur le Seigneur, la colère de Dieu contre le péché, toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Et puis, des algues ont enveloppé ma tête. Pour le Seigneur, on pense à la couronne d'épines qui blessait son front et que les soldats frappaient d'un roseau. Ce miracle de la préservation de Jonas, c'est ça le miracle. C'est qu'il sorte et qu'il soit de nouveau ou encore vivant. Et Jonas est un signe pour les Ninivites, nous dit Jésus dans un des trois passages du Nouveau Testament. Il est, lui, dans sa personne, il est un signe pour les Ninivites. Donc peut-être que les Ninivites, ils ont compris qu'il s'était passé quelque chose de très grave ou de très grand, et peut-être même qu'ils portaient des marques de ce séjour dans un estomac de grand animal. On a sa personne qui est un signe pour les Ninivites, ils ont vu quelque chose. Jésus le dit en Luc 11, « Comme Jonas fut un signe aux Ninivites, ainsi aussi le Fils de l'homme le sera à cette génération. » Alors c'est un encouragement aussi, si quelqu'un s'est détourné, si quelqu'un est sur un chemin de retour, d'avoir cette pensée que Dieu préserve ici son serviteur, le protège de façon extraordinaire et va lui redonner un nouveau départ. Et il y a un verset clé de notre chapitre qui était un peu la conclusion du psaume, c'est que je ne l'ai pas lu, c'est « La délivrance est de l'Éternel ». Clé du chapitre, clé du livre. Hein. Jonas comprend que la délivrance est de l'Éternel. Et ça, c'est extraordinaire. Il va maintenant le mettre en pratique. Il va en parler. Et il comprend que lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Il a été sauvé. Mais il y a un autre verset qu'on va lire maintenant, qui est très touchant pour chacun de nous. Et la parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois. La parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois. Nous avons un Dieu qui est patient envers nous, un Dieu qui s'occupe de nous, et s'il y a des chemins de travers, s'il y a des chemins de retard, il y a la deuxième chance. Et dans Job, il est même parlé de une fois, deux fois, mais il faut y prendre garde, parce que dans Job, il est dit que certains ne prennent pas garde. Mais notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance, parfois même plus. Mais quelle grâce d'entendre ici ce message que la parole de l'Éternel vint à Jonas une seconde fois. Mais c'est le même message. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie-lui, selon le cri que je te dirai. Et Jonas se leva et s'en alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une fort grande ville de 3 journées de chemin. Et Jonas commença à entrer dans la ville le chemin d'un jour. Et il cria et dit, « Encore 40 jours et Ninive sera renversée. » Et les hommes de Ninive crurent Dieu et proclamèrent un jeûne et se vêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. Car la parole parvint au roi de Ninive et il se leva de son trône et ôta de dessus lui son manteau. Et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit crier et dire dans Ninive par un édit du roi et de ses grands disant que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qu'ils ne paissent pas, ne boivent pas d'eau, et que les hommes et les bêtes soient recouverts de sacs, et qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent chacun de leur mauvaise voie et de la violence qui est entre leurs mains. Qui sait ? Dieu reviendra et se repentira, et reviendra de l'ardeur de sa colère, et nous ne périrons pas. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. La taille de la ville, la grande ville dont on a parlé tout à l'heure, est confirmée. 3 jours de chemin. 3 jours de chemin. Nous assistons en fait au plus grand réveil, probablement, de l'histoire, de l'humanité peut-être. Parce que même du temps des actes, 3000, 5000 convertis, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Ninive. Et alors, la ville, donc très grande, alors les archéologues y voient peut-être la région, Ninive et les banlieues, ou quelques villes qui formaient un petit réseau, où on ne sait pas exactement comment c'était, mais en tout cas très grand, en fait, il y a 3 jours de marche. Il en a suffi d'une seule sur les 3 pour créer le réveil. Alors qu'il faut 4 chapitres pour Jonas pour créer son propre réveil. Mais alors à Ninive, 1 jour de chemin sur les 3 et c'est déjà le raz-de-marée, le très très grand réveil. Alors, un petit détail technique, les 40 jours de jeûne avec la cendre ont été repris dans le carême, les 40 jours de carême avant Pâques, qui commence au mercredi décembre, hein, juste pour information technique. Conversion, ou en tout cas remise en cause générale de la ville, commençant par le roi, qui est peut-être même le roi d'Assyrie, le roi de Ninive, avec un texte qui est parallèle, presque au mot près, à ce qui s'est passé sur le bateau. Parce que les hommes de Ninive crurent Dieu, verset 5, mais ça ressemble terriblement à chapitre 1, verset 5, les marins eurent peur et crièrent chacun à son Dieu. Donc on a d'abord les hommes, les marins, les hommes. Ensuite, on a, verset 6, le roi, mais au verset 6 de Jonas 1, c'était le maître des rameurs qui s'approche et qui dit, lève-toi, crie à ton Dieu. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit le roi? Il faut crier à Dieu. Verset 8, avec force. Et le roi et le chef des rameurs avaient dit, peut-être Dieu, et nous ne périrons pas. Et là, on a le roi qui dit, peut-être, qui sait, Dieu, et nous ne périrons pas. Ça se ressemble. Et puis ensuite, bien sûr, la fureur de la mer s'arrêta, verset 15, et ici, et Dieu se repentit, et il ne le fit pas. Donc on a une construction du texte tout à fait parallèle, et on a en grand ce qui s'est passé en petit sur le bateau. Et on a donc un réveil extraordinaire qui sera d'une certaine profondeur, puisque effectivement Nahum annoncera quand même la destruction de Ninive, mais pour 150 ans plus tard. Mais voilà ici une génération qui se tourne vers Dieu, et c'est absolument extraordinaire. Il a fallu la résurrection de Jésus pour ouvrir le salut aux nations, et on se souvient de la visite des Grecs en Jean 12, nous voulons voir Jésus. Et Jésus leur dit, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il va demeurer seul. Mais s'il ne meurt, il va demeurer seul. Mais s'il meurt, alors il va porter beaucoup de fruits. Et le Seigneur Jésus doit mourir, doit ressusciter pour que l'évangile soit annoncé à la terre entière. Et ici, on a symboliquement, bien sûr, cet immense réveil de Ninive, comme suite de la résurrection. Je recite encore le texte de Jésus quand il dit « Des hommes de Ninive se lèveront. Jonas fut un signe aux Ninivites. » Ça, on l'a déjà dit. Et Jésus continue « Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération. » Et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc Jésus annonce la résurrection des Ninivites. Ils se lèveront. Ils se lèveront et ils vont parler et ils vont condamner cette génération qui, eux, ne se repentent pas alors qu'eux se sont repentis. Donc de nouveau, historicité. Et il annonce même leur résurrection. Et il y a ici plus que Jonas. Donc il nous rappelle aussi que dans toute notre étude, il nous faut bien sûr aussi chercher toujours le Seigneur derrière, qui est bien sûr le plus grand. Toute notre étude doit nous ramener à lui. Alors on arrive au chapitre 4. Chapitre 4, mais Jonas trouva cela très mauvais, et il fut irrité. Et il pria l'Éternel et dit, Éternel, je te prie, n'était-ce pas là ma parole? quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté, et qui te repent du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Et l'Éternel dit, fais-tu bien de t'irriter. Alors, il nous donne la clé. Il nous donne la clé à la fin. Ce qui, sur le plan écriture, est quand même bien construit, parce que il s'est donné le mauvais rôle depuis le début, sans nous donner la clé. Alors, on a vraiment tous éprouvé beaucoup de sympathie pour les matelots, et on trouvait qu'il exagérait beaucoup, et puis maintenant, on a de la sympathie pour les Ninivites, et maintenant, il nous donne la clé à la fin. Et en fait, la clé, c'est que, oui, mais enfin, moi, je ne voulais pas du tout que tu pardonnes à tous ces gens-là. C'est des gens affreux. Moi, je sais très bien que tu es un Dieu de grâce qui fait miséricordieux. Puis alors, en plus, ma réputation de prophète, un prophète, d'après Deutéronome, c'est quelqu'un qui doit absolument être reconnu par le fait que sa parole s'accomplit. Si ce que je dis ne s'accomplit pas, enfin, c'est vraiment tout faux. Et on a cette crispation du juif contre le salut du non-juif. Et qui va traverser la Bible, le Nouveau Testament, et on sait bien que ça va continuer. Donc, voilà, il nous donne la clé. Et l'Éternel est pédagogue et patient. L'Éternel, fais-tu bien de t'irriter. Ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même vécu quelque chose d'énorme, de très grand, et on a l'impression qu'il l'a déjà oublié. Et ça nous arrive aussi. Ça nous arrive aussi. De vivre des grandes délivrances, et vraiment on est fortifié, et puis quelques temps après, c'est comme si on avait oublié. Qu'on ressemble quand même à Jonas. Voilà, mais Dieu est plein de patience, plein de pédagogie. Fais-tu bien de t'irriter. Alors Jonas sortit de la ville, et s'assit à l'orient de la ville, et il se fit là une cabane, et s'assit dessous, à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Le voilà en attitude maintenant de spectateur, plutôt qu'en attitude d'homme de prière. Voilà qu'il y a quelque chose qui va peut-être se passer dans ce monde, et il va s'installer sous sa cabane pour voir ce qui va se passer. Et ça nous menace quand on écoute la radio, quand il y a un conflit, même sur la terre, quand il se passe quelque chose, d'être dans une attitude de spectateur, plutôt qu'une attitude d'acteur par la prière. Et c'est vraiment ici caractéristique. Il se fait sa cabane, il s'assied à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait à la ville. Et l'Éternel Dieu prépara un quicachon, donc une espèce de plante qui grandit, semble-t-il, assez vite, et le fit monter au-dessus de Jonas pour faire ombre sur sa tête, pour le délivrer de sa misère. Et Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du quicachon. Et Dieu prépara un verre le lendemain, au lever de l'aurore, et il rongea le quicajon, et il sécha. Il arriva que quand le soleil se leva, Dieu prépara un doux vent d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, et il défaillit. Hein, Dieu prépare, Dieu envoie, il intervient, il continue à intervenir. Et Dieu est plein de grâce pour les Ninivites, mais aussi pour son serviteur Jonas, et il s'en occupe. Et avec des petites choses, et avec un peu d'ombre, et il défaillait, verset 8, et il demanda la mort pour son âme, et il dit, mieux me vaut la mort que la vie. Et Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du quicajon? Et il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à là-bas. Il réagit comme un enfant. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Alors il est crispé par le petit quicajon. Alors il y a eu un grand poisson, il y a une grande vie. Il y avait une grande tempête, que des choses grandes. Et puis maintenant, on a un arbuste, probablement pas bien grand. Puis on a un petit verre. Et alors, c'est la grosse crise. Et ça, c'est aussi nos vies. Puis alors, on se plaint en plus. En plus, on se plaint. Il y a une crise, il y a un problème, il y a un truc. Mais c'est vraiment petit par rapport aux choses importantes de la vie, par rapport à Ninive, par rapport au bateau qui allait sombrer, à tout l'équipage qui allait mourir. Voilà des choses importantes. Et alors, nous, on est crispés, mais alors par le petit verre et le kikage. Typique. Et Dieu, il lui fait donc une leçon de choses. Tu as pitié du quicajon. L'Éternel dit, tu as pitié du quicajon. pour lequel tu n'as pas travaillé et que tu n'as pas fait croître, qui, né en une nuit, a péri en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville. Encore, hein, on entend la grande ville. Il aime cette ville. Dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail. Le Seigneur fait une leçon de choses. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment eu pitié du Kikajon. Pensez surtout à lui, très égoïste, Jonas. Mais voilà, il le fait réfléchir un peu. Tu vois, c'est ces petits arbustes, et puis un petit ver qui ronge, et ça va sécher. Et c'est vrai que un petit ver peut nous dessécher aussi. Hein. Des petites choses, le péché ou autre chose peut dessécher une vie. Mais voilà, il est né en une nuit, il a péri en une nuit. Et moi, est-ce que je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville ? 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, c'est peut-être les enfants. Si c'est les enfants, ça va bien avec la réponse très enfantine de Jonas. Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. Et puis ça va bien aussi avec le fait que le Seigneur, c'est comme s'il l'amenait sur ce terrain de la grâce, un peu en se mettant de son côté, en ne lui citant que, on va dire, les innocents, les enfants très jeunes et le bétail, comme pour essayer de le convaincre, comme pour l'amener là. Et puis ceux qui ont du mal à croire que la ville pouvait être aussi grande pour avoir 120 000 enfants, donc une ville de moins 500 ou 600 000 habitants, on pourrait aussi y voir 120 000 personnes qui ne savent pas décider dans leur vie, entre la droite et leur gauche, qui ne savent pas s'orienter. Et donc ça pourrait contenir toute la ville, mais enfin l'enseignement est très proche. Dans tous les cas, on a un Dieu qui est plein de grâce et qui est plein de délicatesse, qui mentionne même le bétail, ça aussi c'est touchant. Hein, notre Dieu qui possède du bétail sur 1000 montagnes, eh bien il s'intéresse même ici à ce bétail. Et alors, Jonas lui laisse le dernier mot. Hein, la dernière phrase, c'est la phrase de Dieu. Donc on voit qu'en écrivant son livre, évidemment, Jonas a compris la leçon. Et c'est pour ça qu'il a écrit son livre de cette façon, pour nous y conduire. Mais il laisse à Dieu quand même le dernier mot. Et c'est un mot de grâce, parce que c'est vraiment un Dieu qui veut sauver. Et si on repense juste aux 4 chapitres, en fait, il y a beaucoup de trajets dans ces chapitres. Et le frère McGee, qui fait les émissions en cinq années sur toute la Bible, qui veut apporter la Bible entière au monde entier, et ça dure depuis plus de 30 ans, eh bien, il a fait carrément les trajets. Et alors, on s'aperçoit, effectivement, il devait aller à Ninive, il est parti à Tarsis, il termine dans le poisson. Ensuite, du poisson, eh bien, il arrive sur la terre. Finalement, il va à Ninive. Puis à la fin, il va à l'Orient de Ninive. Et la station d'arrivée, c'est le cœur de Dieu. Il est arrivé au cœur de Dieu et il nous laisse là. Et il nous laisse là. Il est arrivé au cœur de Dieu. Et les dernières paroles sont les paroles du Seigneur. N'aurais-je pas pitié ? N'aurais-je pas pitié ? Et on sait que ce cœur de Dieu qui nous bouleverse, c'est son amour des créatures, son amour de toutes ces créatures, de toutes ces grandes villes, mais aussi de tous les petits villages de cette terre, son amour de sa créature, une affection brûlante aussi pour les jeunes enfants, si c'est d'eux dont il s'agit, qui rendent son pardon, sa grâce comme incontournable, comme nécessaire. Nécessaire. Et moi, mais j'aurais pas pitié. C'est devenu nécessaire pour le cœur de Dieu de pardonner. Bien sûr, sur la base juste, et on sait par le Nouveau Testament que la base de ce grand salut, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, dont le livre de Jonas est un des plus grands types.
dans le cantique 136.
Cantique 136 de Hymne et Cantique.
Des reflets.